بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الإسلام. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de reprendre ces programmes de tafsir qui ont pour but de nous rappeler, de nous faire comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans à travers son livre révélé sur Nabi Karim Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah ta'ala de nous donner la sincérité qu'il faut et surtout l'istiqama, la fermeté et la constance dans ce travail. Parce que l'istiqama, c'est quelque chose qui distingue le musulman. Tout comme après ce mois béni de Ramadan, chaque musulman se doit de faire le niyat de l'istiqama. C'est-à-dire qu'après ce mois où j'ai fait énormément d'efforts dans l'adoration d'Allah, j'ai énormément fait d'efforts dans l'éloignement de tout ce qui provoque la colère d'Allah, et j'ai fait énormément d'efforts pour contrôler mon nafs, contrôler mes passions, contrôler mon comportement parce que j'étais en état de jeûne. Dans cette dynamique, je dois prolonger ces trois axes. Demander à Allah de nous aider et avant tout faire le niyat de rester ferme, de continuer premièrement à faire les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, à faire des efforts pour s'éloigner, pour rester éloigné de tout ce qui est haram, de tout ce qui est makruh, tout ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième point, continuer à faire des efforts pour se contrôler, me contrôler dans la colère, contrôler mon regard, contrôler ce que je vais écouter, contrôler ce que je vais dire, me contrôler dans ma manière d'agir avec les gens. Ça, c'est quelque chose qui distingue le musulman, car Allah subhanahu wa ta'ala aime particulièrement l'action qui est faite de manière constante. Ahabbul a'mali ila Allah adwa muha wa in qalla. L'action la plus aimée par Allah azza wa jal, c'est celle qui est faite avec constance, même si c'est peu. Il est beaucoup mieux qu'un musulman, il lise une page, deux pages, voire trois pages du Coran, mais tous les jours, plutôt qu'on attend le mois de Ramadan et qu'on enchaîne 5, 6 ou 7 khatm le Coran. Et quand le mois de Ramadan est terminé, ben, notre relation avec le Coran s'arrête à partir du moment où on a vu la lune du Eid, tout comme il l'avait commencé et qu'on avait vu la lune du mois de Ramadan. Donc quand on parle du istiqama sur les bonnes actions, nous devons essayer de continuer à faire nos salats avec Jamaat, bien sûr, à être régulier dans le premier saf, avec les conditions complètes de la salat en congrégation, également dans les nawafil, dans les sunnats muakkada, réels muakkada qu'on avait pris l'habitude de faire durant le mois de Ramadan, également si Allah nous donne tawfiq de faire le qiyam ou l'ayl, de faire le tahajjud durant ce mois, il n'y a aucune raison de l'abandonner complètement. Si pendant 30 jours on a fait de manière constante le tahajjud, ben ce serait dommage qu'après le Eid, on abandonne complètement, comme si que les récompenses étaient valables que pour le mois de Ramadan. Il ne faut pas oublier que dans cette dernière partie de la nuit, Allah Ta'ala descend au ciel qui est à la limite du dunya, et là Allah Ta'ala accepte les doigts. Et chacun parmi nous, chacun connaît sa propre vie, mais chacun vit des situations parfois difficiles. Ça peut être des problèmes liés à la famille ou à la santé ou au travail ou autre. Et chacun a des attentes, chacun a des désirs de son cœur, chacun a des souhaits, chacun a des vœux. Ça peut être en rapport avec un problème que nous avons, ou alors ça peut être un souhait par rapport à notre épouse, par rapport à nos enfants. Si par exemple nos enfants ils sont un peu éloignés de la religion, ben, nous avons tous ce souhait en tant que père que mon fils ou ma fille revienne vers le dîn, ou que mon fils réussisse ses études, ou qu'il ait un bon travail, que ma fille ait un bon mari, etc. Chaque être humain a des attentes de son cœur. Et le seul qui peut réaliser, exaucer les attentes que nous avons de nos cœurs, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ni le maire, c'est ni le conseil général, c'est ni l'assistant social, c'est ni le président de la République ou autre chose. Le seul qui peut réaliser, concrétiser nos souhaits, même ceux qui paraissent les plus difficiles, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce Allah-là, il nous a expliqué, il nous a fait comprendre quelle est la meilleure façon, quelle est la façon pour s'adresser à lui si nous voulons son aide. Allah Ta'ala nous a expliqué, nous a fait comprendre. Allah est proche de nous. Il suffit de lever les mains, il suffit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et si nous pouvons choisir les meilleurs moments pour demander à Allah, ben Allah accepte. Et le meilleur moment de la journée pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la dernière partie de la nuit, c'est le moment du tahajjud. Donc, si nous avons pu faire le 30 tahajjud dans le mois de Ramadan, ce serait tellement dommage d'abandonner complètement cette pratique. Maintenant, si c'est difficile, on se dit qu'on travaille le lendemain ou autre chose, ne serait-ce le jeudi soir, hein, ça c'est exceptionnel. Vous voyez ? Et si on peut le samedi soir, le samedi, le lendemain c'est dimanche, on peut rattraper le sommeil, mais qu'on montre à Allah que nous sommes prêts à faire quelques efforts. Et si Allah voit que nous faisons des efforts, si Allah a vu que un jour par semaine, on se réveille pour tahajjud, mais qu'on a envie, qu'on attend ce jour, Allah nous donnera tawfiq de nous réveiller un deuxième jour, puis un troisième jour, qu'à l'heure du tahajjud, nos yeux s'ouvrent. On se réveille et on a la force, le tawfiq de faire la salat, qiyam al-layl, le tahajjud, et que dans la matinée, on n'est pas fatigué. Parfois, on craint si je me réveille trop tôt, dans la matinée, je vais être mauvaise humeur, de le travail, je vais être fatigué. Non, Allah, il nous donnera la force qu'il faut, il va nous montrer quel barakat il y a de la journée avec la prière de la nuit, avec le qiyam al-layl. Donc, il faut qu'Allah, il voit avant tout qu'on est prêt à faire un effort, que notre cœur est pur, notre intention est là. Je veux me rapprocher d'Allah et je fais un effort. C'est pas juste je veux me rapprocher d'Allah et puis je ne fais rien, non, et je fais un effort. Et si Allah Ta'ala a vu cet effort sincère, Allah nous accepte et ouvrira les portes du Kaboul. Donc, restez ferme de la salat, de la lecture du Coran, comme vient de le dire, dans les saum. Si on pouvait éteindre le ventilateur, Allah Ta'ala, ce serait bien. Jazakumullah khair. Dans les saum, dans les jeûnes, on a été capable, notre corps a encaissé 30 Ramadan. Alhamdulillah, sa ni'amat. Il faut savoir que notre prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de jeûner tous les lundis et les jeudis. C'est pas réservé aux sahaba cette pratique. Certains pensent que si quelqu'un il veut jeûner lundi, jeudi, vraiment, il faut que la personne ne travaille pas, il est à la maison, il a tout le confort nécessaire. Là, wallah, moi je connais personnellement des gens, hein, bon, c'est dans les quartiers un peu éloignés, au Moufia et tout, des gens qui travaillent sur le chantier. Moi je connais des gens qui sont maçons ou alors des travaux qui sont en rapport avec le bâtiment. Et je vois ces gens tous les lundis, jeudis, quand on donne azan, je vois ils vont dans le Wuzukhana, ils mangent le azan. Moi je suis admiratif. Parfois en tant qu'alim, on a un travail pas trop difficile, on est assis, on a des élèves, on ne transpire pas, alhamdulillah. Mais je vois un entrepreneur, un maçon ou des gens qui travaillent dans le bâtiment, subhanallah. Vous êtes savoir c'est quoi travailler le bâtiment, c'est depuis 6h du matin, il a la pause de midi, il rentre pas chez lui, il renchaîne, subhanallah, c'est des travaux physiques difficiles. Et cette personne-là, il fait saum lundi, jeudi. Et c'est quelqu'un qui embrasse l'islam depuis quelques années. Alors moi je suis admiratif. Moi je dis subhanallah, si des gens qui ne sont pas nés dans l'islam, ils sont prêts à faire autant d'efforts, ils ont un tel amour pour le dîne d'Allah, ben nous qui sommes nés dans le dîne, nous qui avons des acquis religieux, ben nous devons prendre exemple de ces personnes-là et montrer à Allah également que notre cœur est rempli de bonnes intentions, hein, que nous voulons nous rapprocher d'Allah. Donc si quelqu'un peut faire le saum, le jeûne, n'a fait le lundi et le jeudi, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, pour rester d'actualité, nous sommes le 17, je pense le 17 Shawwal ou le 18, hein, il reste encore une chance. Celui qui n'a pas commencé ses 6 Shawwal, il peut toujours les faire. Nous savons que dans les Masla, il est expliqué que les 6 Shawwal peuvent être faits à n'importe quel moment du mois du Shawwal. Ce n'est pas forcément le 2 Shawwal jusqu'au 8, parce que 7, il faut faire 6 consécutifs. Non, on n'a pas besoin de faire de manière consécutive et il n'y a pas besoin que ce soit rattaché au Eid. Donc si quelqu'un n'avait pas réalisé l'importance du Shawwal, lorsque le Nabi Karim alayhi salatu wassalam dit man sar Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyam ad-dahri, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui ensuite jeûne 6 jours de Shawwal, Allah lui accorde la récompense de l'année tout entière passée dans le jeûne. Alors imaginons quand nous serons devant la balance, le mizan, le jour de Qiyama, lorsque l'homme demandera à sa femme de l'aider, lorsque la femme demandera à son mari de l'aider. L'aider comment? Un hasana, un namaz, un ayat de Coran. Lorsque le père demandera à son fils de l'aide et le fils demandera à son père de l'aide, mais qu'en ce jour, personne ne connaîtra son prochain. On aimerait qu'on nous aide pour un tasbir, pour un Allahu Akbar. Mais là, imaginez, vous avez 360 rosan qui est mis dans votre livre de compte par un effort minime de 6 jours. Le musulman intelligent, c'est celui qui réalise qu'Allah nous a fait cette promesse. 6 jours, Allah nous accorde la récompense de l'année entière passée dans le mois de l'année entière passée dans le jeûne. C'est comme si votre patron vous disait, travaillez 6 jours, je vous donne le salaire d'une année. Qui est l'inconscient qui n'accepterait pas de travailler 6 jours pour avoir le salaire d'un an entier, subhanallah. De même, comme nous sommes haris, nous sommes Nous sommes toujours à la recherche des bienfaits de ce monde. Nous sommes toujours à la recherche d'augmenter notre confort dans la maison, d'augmenter notre niveau de vie, d'avoir plus de biens, de manger mieux, etc. Nous voulons plus de confort. Ça, c'est de la nature humaine. Mais pour notre iman aussi, nous devons rechercher à nous rapprocher d'Allah. Ce n'est pas que je dis « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, je fais mes 5 salats et puis c'est bon pour moi. J'ai mon accès au Jannat, là, Wallah. » Si nous, comment pouvons-nous espérer un jour être avec les Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, si nous ne faisons pas les actions des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in? Si nous n'essayons pas d'avoir les qualités de Abu Bakr Uthman, Umar Uthman Ali, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Musa ibn Umair, etc., etc., si nous n'essayons pas de faire des efforts pour nous rapprocher d'Allah, comme ces Sahaba l'avaient fait, mais comment pouvons-nous rêver d'avoir un jour un rang dans le paradis qui nous permettrait d'accrocher ces piliers, d'accrocher ces personnes exceptionnelles, mes chers frères? Donc faisons tous l'effort. Celui qui n'a pas encore jeûné les chichawal, ou qui a commencé, qui trouve un peu dur, moi je vous dis honnêtement, normalement les jeûnes, ça c'est une action entre une personne et Allah, on ne doit pas dire. Mais je suis d'avis que pour les chichawal, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Moi je suis d'avis que si on peut casser le carême ouvertement devant les gens, ça peut être un moyen d'encourager les personnes. Parce que peut-être que les gens ne connaissent pas ça. Mais il dit, pourquoi vous avez fait carême? Ramzan fini, et puis on peut expliquer que non, ça c'est Shawwal, il y a telle récompense. Moi je vois ça comme Mimba Abit Tadrib. Pour vous dire, moi je suis bon délai de la classe, aujourd'hui c'était mon deuxième bas. Le 15 juin on a mangé, on a bu, on a festoyé, on a dit, c'est Shaitan, ça dit, attends, pause. Hey, on n'est pas des extrémistes, hein. Ta'ala Billah a dit que nous sommes queen, nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses et tout. Il faut être un peu plus proche de la famille, il faut refaire un peu le corps, il faut récupérer les vitamines, récupérer l'eau qui a été éliminée dans la main. Shaitan, il est médecin, il est chirurgien, il est psychologue, il est assistant social, il est tout là dans ces moments-là. Donc on retarde, puis quand on regarde le chronomètre, ben il reste 10 jours. Ben là, vous êtes obligé de faire le forcing, hein, enchaîner. Mais le plus important, c'est que dans ce mois, nous arrivons à jeûner 6 jours. Et avec ce yaqin, Allah me donne le reste de l'année de saum, de récompense, de jeûne nafil. On fait tous les efforts, Inch'Allah, l'intention, Allah nous accepte tous, Inch'Allah. Alors, et puis maintenant, supposez quelqu'un est très âgé, ça c'est important. Supposez quelqu'un est âgé, quelqu'un est diabétique, quelqu'un est malade, et que dans sa jeunesse, cette personne avait l'habitude de faire ses actions. Parce que ça me dit un hadith en ce sens, je n'ai pas les termes du hadith en arabe en tête, il dit que la personne qui est en voyage ou qui est malade, et qui ne peut pas donc accomplir l'action qu'elle faisait avant, Allah Ta'ala lui accorde l'équivalent de l'action. Si maintenant moi j'ai 50 ans ou 60 ans, Allah nous protège et donne la santé à ceux qui sont atteints de ça, j'ai le diabète. Et depuis j'ai 15 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai toujours fait mes 6 shawwal. Et là, à cause des problèmes de santé, je ne peux plus faire. Alors, sachant que Allah Ta'ala m'accorde ses récompenses jusqu'à ma mort. Parce qu'Allah Ta'ala, il sait que la seule chose qui m'a empêché de jeûner, c'est la maladie ou alors les difficultés. Donc vous voyez comment Allah Ta'ala est généreux, même si nous avons un niyat, nous ne pouvons pas, mais notre cœur est rempli de bonnes intentions de se rapprocher d'Allah, Allah Ta'ala est capable de nous accorder cette récompense. Allah nous l'accorde tous, Inch'Allah. Je rappelle mes chers frères, le but ce n'est pas de parler. Parce que parler, on parle. Il y a tous les alims qui font des bayans, de l'établir, on fait des bayans, partout on entend des discours. Mais le but, ce n'est pas juste de s'asseoir, d'écouter. C'est vrai qu'on a des hasanats, on a des récompenses. Mais des discours, il y a des gens beaucoup plus compétents que nous qui font dans le monde entier. Mais le but, ce n'est pas d'écouter, le but, c'est vraiment arriver à la pratique. Parce que si on écoute des tafsirs, un tel Ibn Kathir dit ça, Qurtubi dit ça, Ar-Razi dit ça, etc., et qu'on enrichit notre connaissance, que ah oui, pour tel VSC, il y a 3 qawls, il y a différents tafsirs, ça, alhamdulillah, on devient presque mufassir, mais il n'y a pas d'action dans notre vie, ben ça ne sert strictement rien. Comme le Prophète a qualifié de Coran, il a dit comme Athil al-Himar yahmilu asfara. Imaginez, c'est comme un âne qui porte, il porte des trésors de son sac ou autre chose, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il porte. Donc le but, ce n'est pas de cumuler le ilm. Le but ce n'est pas de cumuler la connaissance ou la science ou faire de beaux discours ou des discours qui vont intéresser les gens, ou alors même d'avoir un site internet, de le remplir. Non, le but c'est quoi? C'est quand j'écoute, je peux mettre en pratique. Et que si je trouve que la pratique c'est trop dur, je lève les mains, oh Allah, j'aimerais mettre ça en pratique, donnez-moi les sifat et acceptez-moi pour faire cette action. Ça c'est l'objectif. Et il suffit que j'ai l'intention de faire l'action pour que je sois déjà récompensé. Ça, c'est incroyable, ça. Jamais votre patron va vous dire que, bon, Pourquoi vous n'êtes pas venu travailler? Je dis, ben je me suis réveillé, mais après j'ai eu mal à la tête. Il va dire, bon, votre niyat était de venir travailler, mais vous aviez mal à la tête, je vous donne le... Là, wallah, ça n'existe pas, ça. Mais Allah, il est comme ça, subhanallah. Si quelqu'un a l'intention de faire une bonne action, mais elle ne peut pas, mais elle a envie, par le niyat, vous avez la récompense. Et puis, si vous le faites, c'est au minimum récompensé 10 fois plus. Ça, c'est la générosité d'Allah. Mais il faut profiter de cette générosité d'Allah. Parce que la générosité d'Allah n'a pas de limite. Mais nous avons des limites. Notre vie, elle est limitée. Viendra un jour où nous ne pourrons plus faire ces actions. Lorsque Malik al-Maut reprend l'âme, c'est fini. Les actions sont complètement arrêtées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de bonne action non plus. Et dans ce dunya, là on emboîte directement avec le tafsir, lorsque un musulman, le hadith qui dit que le musulman il fait le wudu, il fait 2 rakats, il demande à Allah tawba. On appelle cela le tawba. Demande à Allah pardon pour un péché accompli. Jamais Allah ne renvoie ce musulman les mains vides. Si mon niyat est pur, bien sûr. Pas que je demande tawba et puis je sais que je vais refaire. Là, wallah. On a déjà expliqué les conditions du pardon, du repentir. Le hadith dit qu'il n'y a pas un musulman qui fait 2 rakats pour demander pardon à Allah pour un péché sans qu'Allah ne lui pardonne. Man taba taba Allah alayhi. Celui qui demande pardon, Allah il le pardonne. Ça, c'est sûr. Il suffit qu'on lève le mot, Rabbana. On demande Rabbana, oh Allah, ce qu'on demande, Inch'Allah, Allah il peut exaucer. Mais il y a un Rabbana qui ne sera jamais accepté. Ça, c'est une bonne question, ça, un quiz. Quel est le Rabbana du Coran qui ne sera jamais accepté par Allah? Ce Rabbana, quand on dit oh Allah, c'est lorsque les gens, Nasrallah al-Afiya, les kuffars, ou alors les fussaq, les pécheurs, lorsqu'ils seront dans le Jahannam, ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna. Zalimun. Il y avait ce verset écrit quelque part dans le tafsir. Lorsque les gens seront dans le feu, vont dire, oh Allah, en ce sens qu'on a fait des erreurs, oh Allah, maintenant pardonne-nous et enlevez-nous de cet endroit, c'est-à-dire du Jahannam. Et jamais plus on va recommencer. Si on recommence vraiment, on serait les plus grands des oppresseurs. Ils ont demandé Rabbana, oui ou non? Tout comme nous on demande Rabbana, atina fi dunya, Rabbana, zalamna, nifusana, wa illam taghfir lana. Tous les Rabbana qu'on demande dans le dunya, Allah accepte. Mais il y a un Rabbana qui ne sera plus accepté, c'est quand le azab a commencé. Quand les gens ils vont dire Rabbana akhrijna minha, oh Allah, enlevez-nous de cet endroit. Allah Ta'ala va répondre ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Et Allah Ta'ala dit à ces gens, ne m'adressez plus la parole. Ne me demandez plus rien. Plus de Rabbana, plus de oh Allah, plus de oh Allah, et pitié de nous, rien. C'est fini, restez-y humiliés. Qu'Allah nous protège. La clémence d'Allah est sans limite, mais notre vie, elle est limitée. Le pardon d'Allah dans ce dunya, c'est jusqu'à ce qu'on quitte ce dunya. Après qu'on ait quitté ce dunya, il ne faut plus espérer de maghfirat d'Allah Ta'ala. Sauf si le jour de mahshar, Allah Ta'ala décide de pardonner, ça c'est Allah seul qui connaît. Okay? Alors ce qu'on avait vu avant le mois de Ramadan, c'est, on peut reprendre le film lorsqu'on a vu qu'Allah idha dukkatil ardu dakkan dakka. On a vu lorsqu'Allah Ta'ala explique dans le verset de, on rappelle qu'on est dans le surat wal fajr wal ayal in ashr, lorsqu'Allah Ta'ala explique que le ciel se fendra et les anges viendront et Allah Ta'ala viendra avec son arsh, hein, et qu'Allah Ta'ala jugera les gens. Alors les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati? Les gens ils vont avoir des remords, des regrets. Si seulement j'avais fait des efforts pour ma vie, c'est-à-dire pour cette vie de akhirat, si je n'avais pas passé l'essentiel de mon temps de le dunya, si seulement j'avais fait des efforts mujahada pour préparer cette vie de l'au-delà. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. On s'était arrêté à là. Ensuite Allah Ta'ala dit Qur'an fa yawma idhil la yu'adhibu 'adabahu ahad. Le sens du فَيَوْمَ يَدِي لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ. Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, c'est-à-dire comme Allah subhanahu wa ta'ala châtie. Ça c'est le cas des soit des kuffars, soit des pécheurs qui sont dans le Jahannam, ou qui vont subir les azabs du Jahannam. Et Allah ta'ala atteste que personne ne châtie comme Allah ta'ala châtie. C'est-à-dire que tout comme on ne peut pas comparer les bienfaits de ce monde avec les bienfaits du Jannat, de même on ne peut pas comparer les tortures et les punitions de l'au-delà, du Jahannam, avec les punitions de ce dunya. Regardez cette femme qui avait commis le zina à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas si ça s'appelle Al-Makhzoumiya, je ne sais pas si c'était ça son nom. Hein, elle avait dit au prophète d'Allah, « Tahirni, tahirni au prophète d'Allah, j'ai fait telle erreur, je vais être purifié. » Elle voulait que que la sentence soit appliquée, qu'elle soit exécutée comme le azan yatou azani, le verset, c'est pas le prophète qui a été dit à cette femme-là, c'est elle-même qui vient dire au prophète d'Allah, je veux être purifiée sur ce monde. C'est-à-dire, elle est prête à donner sa vie, son ruh, mais son but c'est quoi? C'est que même si je souffre là de ce monde, mais lorsque je vais rencontrer Allah, ben j'aurai déjà payé ma dette sur ce dunya. Alors que la personne peut se cacher, ne rien dire, et puis... Mais non, ça c'est iman yaqin, ilmul ghaib, al-iman bil ghaib. Elle sait que si je me présente devant le tribunal d'Allah avec ce péché dans mon livre de compte, c'est une catastrophe. Et qu'on ne compare pas le azab de l'au-delà avec les punitions de ce dunya. Lorsque le prophète il voit dans le mi'raj des gens dans un tanour, dans un four, des gens, des hommes et des femmes, et de temps en temps il y a la flamme qui monte, qui pousse ces gens vers le haut, qui les fait retomber. Ça c'est un azab abadi, c'est un azab éternel ça, pour les gens qui ont accompli le zina. Et si c'est des ahlul iman, si c'est des musulmans, ben pour un certain temps ils vont rester, et après ils vont ressortir. Le temps, Allah musta'an, même la seconde passée dans le jahannam, c'est déjà quelque chose de terrible qu'Allah nous protège. Et ça, pour faire comprendre ça, parfois nos élèves, hein, quand les enfants qui ont 10, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, comment on explique? On dit que, ben, imagine hein, que tu as, enfin ça c'est pas... Imagine, vous avez quelqu'un sur une table de torture. On vous dit de le torturer. Quelle est la pire des tortures qui vous vient à l'esprit? Là, chacun dit, ah, il me fait l'islam, il me prend un PSE, il me fait un trou de son tête. C'est des enfants, hein. On n'est pas en train de les apprendre la violence. Mais on veut juste qu'ils fassent un cheminement pour qu'ils comprennent c'est quoi le plus atroce des châtiments. Donc chacun, il va le dire. Là, même certains, ils sont dit, il faut mettre des cure-dents sous les ongles. Subhanallah, parfois, je suis étonné. Ou est-ce qu'ils vont tirer des idées comme ça? Parfois, j'ai peur même de mes élèves à un moment donné. D'accord? Et puis je dis que maintenant comprenez que maintenant je vous explique quel est le plus bas degré des châtiments du Jahannam. Vous allez voir que ça dépasse tout ce que vous m'avez expliqué, toute votre imagination. C'est un homme qui, le jour du Qiyamat, se verra mettre des chaussures qui sont faites, vous connaissez le hadith, qui sont faites avec le feu du Jahannam. Et ces chaussures qui sont faites avec le Jahannam vont faire bouillir l'intégralité de son corps jusqu'à ce que son cerveau se met à bouillir. Et Ibn Uthaymin, rahimahullah, de son commentaire, il dit que si on analyse les textes, les mots du hadith, il dit que le cerveau se mettra à bouillir. Il dit le cerveau, la distance entre les pieds et le cerveau, c'est ce qui est le plus éloigné des pieds. Il dit donc, l'organe le plus, et sachant également que le jour de la résurrection, l'homme ne fait plus 1m80, 1m90, c'est 40 pieds, comme Adam alayhi salam, 40 ou 20 pieds. C'est 40 pieds, comme Adam alayhi salam, d'accord? Donc il dit, si le cerveau bouille, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné jusqu'au pied, que dire maintenant des autres organes du corps? Quel azab terrible que celui qui est en train de goûter ce châtiment, et cette personne va croire qu'elle est la personne la plus châtiée de l'enfer. Alors que ça, c'est le châtiment le moins intense. On allait dire le plus doux, mais le moins intense. Et dans certains hadiths, il dit que c'est réservé à l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Dans certaines sources, il dit, celui qui il protégeait le prophète alayhi salatu wassalam, mais jusqu'à son dernier souffle, il n'avait pas apporté iman en Allah. Donc son châtiment sera le plus faible de l'au-delà, mais lui, il va voir ça, ceux qui goûteront ce châtiment vont le voir comme étant le pire des châtiments. Donc, personne ne châtie comme Allah subhanahu wa ta'ala châtie, tout comme Allah il est ghafour rahim, tout comme personne ne pardonne, tout comme personne ne peut faire preuve de clémence comme Allah. Quand la ta'ala du Coran, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Quand le hadith, inna Allah yaghfiru dhunuba, Allah il pardonne la totalité des péchés. Dans le hadith Qudsi, Allah ta'ala il dit, ô fils de Adam, en ce sens, même si tu as fait quantité de péchés qui remplit, en ce sens, la terre, tout l'espace qu'il y a, mais tu reviens à moi, tu reviens vers moi avec autant de pardon, Allah ta'ala est capable de tout pardonner. Dans les hadiths de Wukuf Arafat, il dit parmi les, pour nous montrer comment Allah il pardonne, si nous nous présentons devant Allah avec autant de péchés qu'il y a de graines de sable dans le désert, de gouttes de pluie ou d'écume dans les mers, et qu'on demande pardon sincèrement à Allah, Allah est capable de tout pardonner. Ça c'est uniquement Allah qui peut pardonner comme ça. C'est uniquement Allah qui peut avoir pitié, qui peut aimer ses créatures comme ça. Mais tout comme Allah il peut aimer de la sorte, il ne faut pas oublier que Nabi Ibadi Anni Anal Ghafur Rahim. Allah Ta'ala, le Coran, en ce sens, informe mes serviteurs que je suis Ghafur Rahim, grand pardonneur et miséricordieux en ce sens. Mais, wa anna adabi wal adab ul alim. Mais en même temps, mon châtiment est un châtiment douloureux. Il y a le tarhib, Allah il pardonne. Mais il y a la mise en garde, le tarhib. N'oubliez pas que si le temps est fini, le sablier est retourné pour chacun d'entre nous. Pour certains, la moitié est terminée. Pour certains, on avait un grand sablier de 80 années. Pour d'autres, c'était de 25 en 30 ans. Et pour certains, il reste quelques grains. Pour certains, il reste encore beaucoup. Mais à partir du moment où le temps prédéfini pour chaque homme est terminé, alors il y a plus, là, on n'a plus rien à attendre. Là, la clémence d'Allah, le pardon d'Allah, c'était jusqu'à ce que l'âme, jusqu'à Al-Ghalghara, jusqu'à l'agonie. Lorsque, et le ulama explique, c'est quand l'homme n'a plus d'espoir de vivre. Quand quelqu'un est condamné, il est dans la maladie, dans les derniers jours, c'est une maladie pour laquelle il va mourir, le docteur a déjà dit, et que cet homme n'a plus d'espoir de vivre, cet ulama dit que c'est ça déjà la limite pour le pardon. Tant qu'on a encore l'espoir de vivre, on peut demander pardon à Allah, et Allah Ta'ala peut pardonner. Voilà. On a 25 minutes, encore 5 minutes, Inch'Allah. Et Fayyam a dit là, ça on vient d'expliquer, et il est dit que parmi les azabs qu'il y aura dans le delà, ce sera al-atashu shadid, cette soif intense que chaque kuffar et fussar éprouveront le jour de la résurrection. Et les seuls qui n'éprouveront pas cette soif, ce seront les mu'minines qui auront bu du kawthar, qui auront bu du fleuve du kawthar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui boit de ce fleuve n'aura plus jamais soif. Il dit que les gens, ils auront donc, on connaît le soleil à quel niveau il sera. On connaît également que le jour du Qiyama, les portes du Jahannam seront ouvertes. Donc il y a la chaleur du soleil et la chaleur du Jahannam qui importunera les koufars et les pécheurs. Et il dit, Ibn Uthaymeen, il fait ce tafsir, il dit que lorsque les koufars vont voir le Jahannam de loin, il dit que فَيَنْظُرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا السَّرَابِ. Ils vont voir le feu et ils vont voir le Jahannam comme un mirage. Déjà vu un mirage? Mirage, c'est quand on voit de loin, bon, dans le désert ou alors sur le bitume très loin, on voit comme il y a des vagues. Ça, c'est une vision optique. Ils vont voir le Jahannam comme un mirage, comme si qu'il y a de l'eau. Et ils vont s'y précipiter en pensant qu'il y a de l'eau à boire. Wallahi qu'Allah nous protège. Lorsqu'ils s'approcheront du Jahannam, futihat abwaabuha. Les portes du Jahannam vont s'ouvrir. Et donc là, ils vont se rendre compte que c'est du Jahannam, c'est le feu, et non pas de l'eau qu'ils étaient en train de voir. C'était un mirage, donc. Et là, les khazanat du Jahannam, les gardiens du Jahannam vont dire, « Alam ya'tikum rusulum minkum. Est-ce qu'il n'y a pas eu des envoyés qui sont venus parmi vous ?»« Yatluna alaykum ayati rabbikum. » Ils vous lisaient les versets du Coran, les versets de votre Dieu. « Wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha. » Ils vous mettaient en garde contre ce jour-là, spécifiquement, le jour où vous allez, en ce sens, vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymeen, il dit que cette étape où les gardiens du Jahannam parlent aux futurs habitants du Jahannam qui ne sont pas encore entrés, il dit que ça, on appelle ça un azab qalbi ou un azab nafsi. C'est une torture, on pourrait dire psychologique. C'est déjà le azab qui a commencé, même s'ils ne sont pas dans le Jahannam. Dans le Jahannam, c'est un adab, c'est un châtiment corporel. Elle dit là, c'est un châtiment, c'est psychologique. Elle dit que non seulement la personne s'est rendue compte qu'elle a tout perdu. Elle a perdu le dunya et elle a perdu le akhira, qu'il n'y a plus de chance, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien espéré de la clémence d'Allah parce qu'elle n'a pas rempli sa mission et qu'Allah l'a livrée au Jahannam. Non seulement la personne, elle réalise quelle erreur elle a fait de ce dunya, mais en plus, il y a les anges qui sont en train de l'agresser verbalement par ces termes. C'est comme une personne, pour vous donner un exemple, c'est comme un jeune qui a passé son bac et qui, le jour de l'examen, le jour du résultat, se rend compte qu'il a raté son examen. Alors la personne, elle pleure, elle est triste. Pour cette personne, tout s'écroule. Elle avait déjà prévu les études, la fac ou autre chose, accepté son dossier ailleurs et où, et je sais quoi. Tout d'un coup, il voit qu'il n'a pas eu son diplôme. La personne, elle est dans un état de tristesse, c'est une année. Une année de travail qui est à l'eau complètement. Imaginez maintenant que la personne rentre chez elle et ses parents commencent à crier. Tu es un paresseux, c'est pas ta faute, tu as raté, etc., etc. Non seulement la personne est attristée, mais en plus il y a cet accablement psychologique qui vient de la part de ses tuteurs, de ses parents ou autre chose. C'est-à-dire que c'est déjà une punition en plus. C'est-à-dire donc quand les anges s'adressent aux personnes qui vont entrer dans le jardin par ces termes, c'est un châtiment psychologique déjà. Il dit que maintenant, plus difficile encore, c'est lorsqu'ils sont dans le Jahannam. Et là, ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est le verset qu'on a dit tout à l'heure. Oh Allah, fais-nous sortir de là. Jamais on ne recommencera plus. Et si on recommence, alors on serait les plus grands des oppresseurs. Et Allah ta'ala dira à ces gens, « Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. » soyez-y refoulés, c'est-à-dire humiliés et ne me parlez plus. Mu'tamin, il dit que ça c'est Arhamur Rahimin qui parle. Quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah est le très clément, le très miséricordieux. Et nous savons quelle est la clémence d'Allah, on l'a déjà expliqué. Il dit que quand le plus clément, quand le Rabb, le Seigneur qui est clément et miséricordieux, quand c'est lui qui s'adresse à sa créature d'une manière aussi vive et violente, il dit restez-y, soyez-y humiliés, ne me parlez plus, ne m'adressez plus la parole. Elle dit comment ces paroles-là sont lourdes pour la personne qui vient d'entrer au Jahannam. Elle voit qu'elle est condamnée encore plus par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala fait comprendre qu'il n'y a pas d'espoir, tu ne sortiras pas de là et ne m'appelle plus, ne me demande plus non plus de t'aider. Elle dit que ça c'est, en plus de la punition physique, il y a le mécontentement d'Allah qui est également un azab dans l'au-delà. Donc, « Fayyum a'idillah yu'azibu azabahu ahad ». Et puis il y a le hadith qui explique l'homme le moins châtié, ça on a déjà dit tout à l'heure, l'homme le moins châtié de l'enfer, quoi qu'on comprenne comment peut-être le degré de l'homme moyen châtié dans le Jahannam ou celui qui est le plus châtié dans le Jahannam, qu'Allah nous protège. Ibn Uthaymin Ahmadullah explique également que personne donc ne peut imaginer, ne peut se figurer quel peut être le degré de châtiment dans le Jahannam. Il dit que quand on entend ces paroles, chaque musulman doit comprendre qu'il y a un moment clé, il y a une limite dans le temps, et que nous devons faire des efforts pour ne pas être dans le cas de cette personne qui dira le jour de Qiyamah, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, si seulement j'avais fait des efforts pour préparer ma vie de l'au-delà. Et la vie de l'au-delà, mes chers frères, se prépare maintenant. C'est ce soir qu'elle se prépare. C'est ce soir vendredi, c'est demain samedi, c'est tant qu'il y a des jours à vivre, c'est des moments qu'Allah nous accorde pour préparer cette vie, cette situation de l'au-delà. Hier, j'avais eu une conversation avec quelqu'un, la personne disait que, expliquait fièrement qu'il y a tel, on va dire comme la personne m'a dit, hein, elle dit que oui, il est à l'école, telles études, ben, il attrape un tantine maintenant, il sort avec et tout fier, en train de l'exposer sur Internet, fièrement. D'accord? Moi, j'ai répondu à cette personne. C'était cru, mais je l'ai dit. Il m'a dit, demande tantine là s'il est prêt pour venir avec Oudan Kabar. Là, il y a réaction, c'était sur Facebook, ça, beau. D'autres, tous les jeunes réagissent, disent, ah là, 1-0 pour Moulissab, Power, je ne sais pas comment ils ont des. J'arrive même pas à qu'on XD, toujours qu'on ne comprend pas comment on lit ça. Mais ils ont dit que là, la méthode Dieu, là. Après, la personne, qu'est-ce que. Bon, j'ai senti que j'ai un peu brusqué la personne. Mais il faut que les gens comprennent également. On ne peut pas dire fièrement que m'attrape telle tantine et tout, non, l'air. Non. On peut dire, d'accord, elle est jolie, elle t'aime, elle est prête à faire une vie avec toi, d'accord. Mais il dit, quand il meurt, viens une nuit dans mon kabar. Bas, après il ressort. Jamais. L'amour, c'est que tant que tu es beau, tant que tu as les moyens, tant que ça va. Mais si ça ne va plus, si tu me donnes plus ce que je veux, si tu n'es plus beau, si tu n'as plus une situation, l'amour, elle s'est terminée également. Donc, n'en parlons plus après la mort, bien sûr. Donc, la personne m'a répondu, chacun son destin. En voulant dire que, bon, toi, tu es un alim, ben, tu as ton destin, et moi, je ne suis pas alim, c'est mon destin peut-être de faire zina. Moi, j'ai répondu à cette personne, chacun choisit son chemin. Et en fonction du chemin que vous choisissez, vous avez votre destin. Faut qu'on comprenne bien la relation qu'il y a entre al-ikhtiyar, le choix, et la destinée. C'est pas que Allah il me pousse pour faire zina, ou Allah il me pousse vers la masjid, c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des automates. Sinon, nous tombons dans l'excès des jabariyas. J'ai expliqué, les jabariyas, ce sont ceux qui disent que c'est les fatalistes, tout est prédestiné. Si je fais le zina, c'est que c'est écrit. Si je fais tahajjud, c'est que j'ai écrit. Ah, vous savez tahajjud à soi, ou taqdir bay. Ah, vous savez zina à soi, ou mon taqdir bay. On ne peut pas échapper au taqdir. C'est-à-dire qu'Allah, il est zalim. Allah, il fait zulm. Pourquoi Allah, il choisit telle personne pour faire qiyamul layl et sehri pour faire somme nafil demain, et l'autre pour aller boire, pour aller en boîte, pour faire zina? Là, wallah. Allah, il donne le choix. Chaque personne choisit son destin. Et ce qu'on va faire, Allah, il savait déjà ce qu'on allait faire. C'est ce qu'on appelle le ilm d'Allah. Et le ilm, la science d'Allah, ce n'est pas comme notre connaissance à nous. Moi, si je n'ai pas lu la page 99 de ce livre, je ne sais pas ce qui est écrit. Je ne sais pas la suite de l'histoire. Mais Allah, il connaît déjà la suite de l'histoire. Et ce qui, comme on l'a déjà expliqué, mais bon, parfois il faut se rappeler un peu mudakara. Quand on explique le ilm d'Allah, Allah, il connaît ce qui existe, ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, si cela avait existé, comment cela aurait été?
يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. Si,
je sais pas moi, je donne un exemple, j'aimais Fatima. Je ne suis pas marié avec Fatima, je me suis marié avec Khadija. Mais Allah, il sait, si moi, Ibrahim, je m'étais marié avec Fatima, quel aurait été mon destin. C'est-à-dire, ce qui ne s'est pas produit aussi, Allah Ta'ala, il sait également comment cela aurait été si cela avait été, si cela se serait concrétisé. Et justement, dans le verset, quand les gens ils disent que, dans, c'est pas ce verset, mais dans d'autres versets, ils disent, oh Allah, ramène-nous sur la terre. Je sais pas si, j'ai pas en tête comment ce verset. Oh Allah, ramène-nous sur la terre et là, on va faire des bonnes actions. Et le ilm d'Allah, c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala, il sait que s'il avait redonné, s'il avait donné une seconde chance à ces gens, et que ces gens retournaient sur la terre, ces gens auraient refait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que c'est une situation hypothétique. Allah ne va pas les enlever de Jahannam. Allah ne va pas recréer le dunya pour les remettre le dunya. Mais Allah, il sait dans son ilm de l'infini, si Jean-Paul ou si telle personne quittait le Jahannam, il retournait sur la terre avec une seconde chance, il revivait dans les plaisirs de ce dunya, même s'il avait vu le Jahannam, il a goûté, la personne serait retombée dans les plaisirs du dunya. Ça, c'est le ilm d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on va s'arrêter, on a 35 minutes, parce qu'après, il y a un grand verset, on ne peut pas couper ça. Désolé, ce soir, on a parlé des choses qui ne font pas trop plaisir. Il y en a qui se disent qu'on fait un effort, on s'assoit, c'est pas pour écouter quels seront les azabs. La prochaine fois, on aura le dessert, Inch'Allah. Là, la soupe était brûlante. La prochaine fois, ce sera le dessert. Ce sera « Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila » Ça, c'est peut-être un des plus beaux versets du Coran, un des versets qui donne le plus d'espoir aux mu'min. « Ya ayyatuha nafsul mutma'inna » C'est lorsque on dit un petit peu le contenu, au moins un peu de baume sur le cœur. C'est lorsque le mu'min quitte ce dunya, lorsque les anges viennent reprendre son ruh, les anges annoncent cette bonne nouvelle. « Ô âme, sors et retourne vers ton Dieu. Retourne vers ton Dieu clément qui est satisfait de toi. » irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, et Allah Ta'ala dira à cette personne fadkhuli, et le jour du qiyamah. Ça, c'est la deuxième étape. Les deux premiers versets, c'est quand l'homme quitte ce dunya, et les deux derniers versets, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, c'est la bonne nouvelle maintenant qu'Allah donne directement aux salihin, aux musulmans pieux. Maintenant, rejoignez les pieux serviteurs et rejoignez mon paradis. Ça, la prochaine fois on va voir inshallah, qu'Allah Ta'ala tawfiq de comprendre ces quelques paroles, inshallah, qu'Allah tawfiq tous. Ce soir, on se lève tahajjud. Je crois que le subh sadiq, c'est jusqu'à moins 20. 5 heures moins 20. Hein? Oui. Donc, on se réveille, même si on est des grands paresseux, on se réveille, ne serait-ce 4h30. On fait wuzu, on fait 2 rakats. Et 2 rakats, et on fait autant de doigts. Parce que le doigt est aussi important que la salat. Et on demande à Allah tout ce qu'on a besoin de demander. On demande à Allah une récompense pour le fait de demander. Et si on n'a pas pu faire le somme de Shawwal, on fait un effort là ce week-end. Surtout ceux qui ont la chance d'être fonctionnaires, hein, de gagner beaucoup d'argent par nos impôts, alhamdulillah. Ben, faisons l'effort. Si samedi on ne travaille pas, on fait niyat que samedi, dimanche, je suis à la maison, je fais 2 Shawwal. Ce que, à lundi, ça nous ramènera à peu près à 20 Shawwal, au 20e. Voyez, il restera 10 jours. Et 10 jours, on regarde 2 pour le prochain week-end. Ça fait 4, et puis on essaie de faire un lundi, un jeudi. On a fait 6, on a récompense d'une année. Qu'Allah me donne tawfiq, moi-même, en premier à nous tous, de faire les 6 Shawwal, de dire à nos épouses de faire les 6 Shawwal, de dire à nos enfants de faire les 6 Shawwal, de donner ces bonnes habitudes à nos enfants, et qu'Allah nous accepte pour faire le qiyam ul-layl, pour faire son ibadat, comme nous le faisions dans le mois de Ramadan, donc d'en ressortir grandi, avec des acquis. Nous ne devons pas être comme l'après-Ramadan 2008, ni comme l'après-Ramadan 2007, 2006. Après chaque Ramadan, nous devons avoir des acquis. Nous avons avancé dans les ibadat. Nous faisons plus de tahajjud, plus de rosanafil. Nous nous contrôlons plus facilement, etc. Jazakumullah khair. Et nous rappelons, ça c'est un petit rappel, que le dernier week-end de ces vacances du mois d'octobre, il y aura le EADJ de Saint-Pierre. Comme on avait fait l'année dernière, le rassemblement des jeunes, on avait fait ça à Saint-Pierre, il y avait eu 450, 500 jeunes, alhamdulillah, qui ont répondu présents. De toute l'île, là on va démarrer la seconde édition, Inch'Allah. Il y a un côté un peu plus fort, il va accueillir un peu plus de personnes. Donc chaque jeune, celui qui a entre 15 et 25 ans, hein, on se rapproche des ulama de notre quartier, de notre masjid. Chaque quartier de Sani, à Sani, on a eu un quota de 150 à peu près. Hein, c'est bien, c'est le plus gros quota de l'île. Et donc chaque quartier a un quota, centre-ville, Latanier, Saint-Côtier de Moufia,
la rivière, les écarts, etc. Chaque ville a un quota. Donc, c'est, on se rapproche, celui qui est entre 15 et 25 ans, il veut participer. Il contacte le alim de son quartier et puis il va donner les autorisations, les papiers à remplir. Ce sera extrêmement profitable. Ça durera 3 jours, vendredi après dimanche, samedi jusqu'à dimanche matin. Et Inch'Allah, cette année, en plus, on a la chance d'avoir un invité qui viendra de métropole. C'est quelqu'un qui a l'habitude de s'adresser aux jeunes, surtout les jeunes en métropole, les quartiers un peu difficiles. Donc, c'est quelqu'un qui a le dialogue très facile avec les jeunes. On a l'espoir qu'avec Bismillah, par sa venue également, ça peut nous apporter quelque chose de très profitable pour la jeunesse et même pour nous dans la manière de travailler, d'encadrer nos jeunes. Nous aussi, on va en profiter. Jazakumullah khair. Et également, ça, je ne sais pas si on peut l'annoncer encore, si c'est officiel, alhamdoulilah, l'innovation, la bonne, ce n'est pas bidat, hein, c'est-à-dire que l'apport qu'on a essayé de faire, il n'y a pas de bonne bidat de toute façon, c'est Inch'Allah, on a fait un EADJ pour les filles également. Mais cela se fera sur une journée. Les filles, on ne peut pas faire dormir, c'est trop compliqué après l'histoire de Mahram et tout. On va faire un rassemblement, et ça, ça va s'annoncer bientôt, Inch'Allah, l'endroit où c'est déjà fixé, en temps voulu. Ce sera un mois après le EADJ, c'est-à-dire octobre, à peu près vers le mois de novembre, parce qu'il y a une demande très importante. Les filles disent que oui, c'est toujours les garçons qui profitent. C'est vrai, il faudrait essayer de faire profiter nos sœurs également. Donc là aussi, hein, mais là, le quota de Saint-Denis est tellement réduit, parce que c'est 250 pour toute l'île de La Réunion. Parce que c'est un centre qui ne peut pas accueillir plus de 250. Mais ça, c'est un premier pas déjà. Qu'on réunisse ces filles, ce sera extrêmement séparé. C'est que entre dames. Puis il y aura un programme le matin, il y aura 2 ou 3 alis qui vont intervenir, bien séparés, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis le reste de l'après-midi, ce sera les rencontres, loisirs entre les filles. Elles peuvent faire connaissance, muhabbat, etc. Créer un mahol de muhabbat entre ces jeunes, donc de la Réunion. Faites doigt qu'Allah donne succès dans ses efforts et qu'Allah envoie la hidayat par le biais des efforts que chacun fait avec sincérité pour la guider des gens. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.